Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée, compile de la chronique politique de Lola.
6 heures avant minuit, 6 heures avant minuit.
Nouvelle voix dans 6 heures avant minuit, c'est celle de Lola et elle va nous lire sa nouvelle chronique qui est plutôt sujet politique, si je ne me trompe pas.
Alors vous en avez peut-être marre d'entendre parler de Trump, mais aussi marre d'entendre parler du procès de Marine Le Pen. Eh bien pas de chance, malheureusement pour vous, aujourd'hui je vous fais un petit mélange des deux, un petit smoothie concocté par mes soins, parce que oui, il y a bien une info qui relie nos deux politiciens préférés, tout genre confondu, et celle qui fait le lien entre ces deux personnages, c'est Magali Lafourcade. Elle est magistrate et actuellement secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et il y a 2 semaines, elle raconte lors d'une interview sur le plateau Dans Société, une émission de France Télévisions, qu'elle aurait reçu une étrange visite, celle de 2 diplomates états-uniens, 2 émissaires de Donald Trump. C'était en mai 2025. Et surprise, ils n'étaient pas là pour parler droits de l'homme, tout ça, mais bien pour récolter des preuves qui auraient pu attester d'une théorie un peu folle. Tenez-vous bien, Marine Le Pen serait victime de la justice française qui l'attaquerait dans le seul objectif de l'écarter des élections présidentielles. Pas du tout, parce qu'elle a été reconnue coupable de détournement de fonds du Parlement européen, non.
Oui, et puis on en a parlé en flash, c'est pas comme si elle avait été condamnée à cet effet à 4 ans de prison, dont un ferme assorti de 5 ans d'inéligibilité.
Bah non, attends, c'est un complot contre notre pauvre Marine. Plus sérieusement, cette théorie inquiète parce que neuf mois plus tôt, en effet, Donald Trump partageait son soutien à Marine Le Pen. En avril dernier, le président états-unien avait comparé la situation de Marine Le Pen à la situation politique de son propre pays. Il parle alors d'une chasse aux sorcières par les, je cite, « gauchistes européens qui se servent de l'arme judiciaire pour faire taire la liberté d'expression et donc de la contraindre à ne pas pouvoir se présenter au présidentiel. Pauvre Marine. » Pour Donald, donc, ce procès est politique, comme il le dit, c'est la mort de la démocratie en France.
Mais quand le procès de Marine Le Pen débutait en mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, Peyman Gallet Marsban, avait déjà mis en garde contre Trump, c'est bien ça ?
Exactement, il alertait déjà sur une possible ingérence inacceptable et intolérable des États-Unis dans les affaires judiciaires françaises. Cette alerte intervenait juste après un article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Dans cet article, on pouvait lire que l'administration de Donald Trump aurait envisagé des sanctions à l'encontre des magistrats du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné Marine Le Pen en mars dernier. Depuis, Magali Lafourcade a écrit un livre, La justice en procès. C'est sorti récemment, le 27 janvier, où elle y raconte, rappelez-vous, la vague de décrédibilisation de la justice française et de contestation de la condamnation de Marine Le Pen par les électeurs du parti et les petits collègues de Marine. Pour l'autrice, c'est le syndrome Trump et Le Pen, dénigrer la justice et la morale pour faire en gros ce que l'on veut. Et même si dans cette chronique je parle au conditionnel, malheureusement c'est le quotidien du magistrat à la Cour internationale Nicolas Guillou, visé depuis août dernier par des mesures de rétorsion américaine. Il intervenait notamment dans les affaires des États-Unis et Israël et ça n'a pas dû plaire à Trump qui depuis l'interdit d'accéder au territoire américain.
Claire et nette, Lola.
Oui, il fait pas les choses à moitié, le Donald, mais ce n'est pas tout. Les comptes sur les réseaux sociaux du magistrat, qui sont principalement tous états-uniens, sont donc bloqués. PayPal, Apple Pay, Amazon, etc. Même tarif pour les systèmes de paiement Visa, Mastercard, American Express et de toutes les banques en lien avec les États-Unis. Il n'est plus le bienvenu. Cette pression ne date donc pas d'hier. On compte aujourd'hui près de 6 juges et 3 procureurs de la Cour internationale pénalisé de cette façon par le président, à croire que ce qu'il s'est passé au Venezuela pourrait aussi arriver jusqu'au pas de notre porte pour les présidentielles de 2027.
Merci beaucoup Lola, on te retrouve très bientôt. pour un nouvel épisode de ta chronique.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
On en a parlé en début d'émission, la France insoumise est accablée par tous ses opposants et opposantes politiques depuis quelques jours dans les médias. On cite LFI tue, ce sont des assassins. Ces mots incriminent le parti politique dans l'affaire Quentin Derenck. Samedi dernier à Lyon, le jeune militant d'extrême droite a été lynché à mort en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Depuis, le parti est tenu responsable de ce lynchage. Car depuis début février, LFI est officiellement classée à l'extrême gauche et ça fait beaucoup parler. Les opposants politiques de LFI établissent le lien entre extrême gauche et danger pour la société. Lola, tu reviens sur ce classement de LFI à l'extrême gauche.
Et oui, LFI se retrouve officiellement à l'extrême gauche, de quoi rendre jaloux même les ultras du club de foot du coin de ta rue. C'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lui-même qui l'a affirmé début février. Les insoumis sont désormais catégorisés comme un parti d'extrême gauche pour les municipales 2026.
Mais comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont décidé que LFI était d'extrême gauche un matin, comme ça, sur un coup de tête, Lola?
Alors, même si ça en a l'air, c'est en fait totalement le rôle du ministre de l'Intérieur d'étiqueter les partis politiques comme il l'entend. Enfin, je suis un peu réac, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. En gros, on appelle ça le nuançage. Aujourd'hui, un décret datant de 2014 autorise le ministère de l'Intérieur à créer ce fichier avec le Conseil d'État. Ce dernier comprend des données relatives aux candidatures enregistrées et les résultats obtenus par les candidats et candidates, notamment à des fins d'études électorales. Ce pouvoir est même directement inscrit dans le règlement de chef de service du ministère de l'Intérieur. Il peut donc, je cite, « établir une grille de nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaires à l'information des pouvoirs publics et des citoyens-citoyennes ». En gros, c'est lui qui décide qui est placé ou sur l'échiquier politique pour que les citoyens et citoyennes sachent à leur tour mieux décrypter le monde politique. Sauf que cette étiquette d'extrême, elle dérange LFI, elle dénonce une diabolisation du parti juste avant les périodes électorales des municipales, ce qui en effet ne tombe pas à pic.
Mais en fait, ça veut dire quoi être extrême, Jamy?
Alors ça, c'est hyper philosophique comme question, mais je vais essayer d'y répondre au mieux avec mes amis les chercheurs et chercheuses et historiens et historiennes. En gros, c'est la première fois que LFI est officiellement classée à l'extrême, et on va pas se le cacher, aujourd'hui, être classée à l'extrême gauche, c'est un peu comme recevoir la mention « élève turbulent » dans le cahier de notes de la République. Déjà, c'est quoi l'extrême gauche? Quand je vous dis extrême gauche, vous pensez sûrement aux trotskistes, maoïstes ou anarchistes, et vous avez bien raison, il s'agit de la branche révolutionnaire de la gauche. Elle rejette le réformisme et le parlementarisme et entend mettre à bas le système capitaliste. Ce qui caractérise cette branche de la gauche, c'est aussi qu'elle n'entend pas lutter par voie électorale. Elle penche plutôt pour le syndicalisme, les grèves générales, voire le sabotage et l'action violente. La France insoumise est fondée en 2016 par Jean-Luc Mélenchon. Le parti découle du mouvement du Front de gauche créé lors des élections européennes de 2009. Cette coalition réunit alors le Parti communiste, le Parti de gauche et la gauche unitaire. En gros, ce mouvement prône une prise de pouvoir par les urnes et l'instauration d'une 6e République. JLM veut alors marcher sur les pas de Mitterrand. LFI est donc plutôt social-démocrate à ses débuts. On est bien loin des anarchos et des partis plus révolutionnaires comme la NPA ou la lutte ouvrière, eux, classés à l'extrême.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, LFI est considéré comme extrême?
En fait, si l'on revient dans le temps, on observe que les insoumis ont toujours été un peu moqués, catégorisés comme trop radicaux. Le point de discorde est là. Laurent Nunez confond-il l'extrême gauche et la gauche radicale? C'est la question que s'est posé l'historien Nicolas Rousselier. En gros, le ministre de l'Intérieur justifie son nuancier par deux points. LFI ferait part d'un fort refus de la discussion parlementaire et le parti remettrait fortement en cause l'autorité judiciaire, médiatique et policière. Il prend appui alors sur de nombreux amendements déposés par LFI à l'Assemblée.
Bah en fait, vu d'ici, ça se tient.
Et oui, puisque historiquement, la spécificité de l'extrême en politique se définit par l'anti-parlementarisme et l'outrance. Mais la réponse ce lundi de Mathilde Panot, membre des Insoumis, est assez intéressante. Elle s'adresse à LCP et dit, je cite, « Parce que nous appelons à la censure du gouvernement, nous sommes d'extrême gauche. » C'est quand même un argument qui est très fort de café et elle n'a pas tort. On peut aussi parler d'extrême alors au sujet d'Emmanuel Macron et ses copains qui ont souvent abusé du 49-3. Même si, il faut le rappeler, les macronistes, eux, assument leur étiquette à l'extrême centre. En tout cas, les insoumis se revendiquent de gauche radicale et non d'extrême gauche. Cette distinction entre radicalisme et extrémisme cristalliserait le véritable enjeu de cet étiquetage. Jean-Claude Michéa, dans La double pensée, sortie en 2008, écrit ceci. On appelle critique radicale toute critique qui s'avère capable d'identifier un mal à sa racine et qui est donc en mesure de proposer un traitement approprié. Une posture extrémiste, elle, oblige un sujet, afin de maintenir désespérément une image positive de lui-même, à dépasser sans cesse les limites existantes. Vous avez peut-être pas tout compris, mais il le résume assez bien. En gros, il dit que si quelqu'un propose que l'on coupe la jambe droite d'un malade atteint de la grippe, on ne dira pas que le remède proposé est radical. On dira simplement qu'il est extrémiste. Le parti politique a affirmé en début de semaine déposer un recours au Conseil d'État contre son classement à l'extrême gauche.
Alors, LFI, extrême gauche ou pas ? L'avis n'est pas tranché.
Eh bien, selon une étude publiée ce lundi par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, 77% des Français et Françaises jugent que la France insoumise est à l'extrême gauche, contre seulement 30% qui le contestent. Personnellement, je me questionne quand même sur un point. Et si, après tout, ce n'était pas LFI qui se serait radicalisé, mais tout l'échiquier politique qui se serait droitisé.
Merci Lola.
Si Lola. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.